RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Ces dernières semaines, l'actualité a été émaillée de drames impliquant des adolescents, agressions, morts violentes. Les jeunes sont-ils plus violents? Y a-t-il une crise de l'autorité? Et quelle réponse éducative apporter? On va regarder ça de plus près avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, toujours dans le thème de l'éducation, on parlera des patronages. Vous savez, ces lieux d'accueil et d'évangélisation des enfants qui ont rencontré un vrai succès partout en France au cours des 19e et 20e siècles. Que sont-ils devenus aujourd'hui et quel est véritablement leur rôle? On en parlera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Consentez-vous cette violence? Est-ce qu'elle a toujours existé d'après vous ou s'est-elle aggravée? Que faire pour freiner cette spirale? Et est-ce que les chrétiens ont un rôle à jouer? On vous attend avec vos témoignages au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec Pauline de Torsiac en ce lundi matin. Bonjour Pauline.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Romans-sur-Isère, Grande-Synthe, Viry-Châtillon, Châteauroux, ces villes de France ont tristement fait la une de l'actualité ces dernières semaines. Toutes ont été le théâtre de drames mettant en cause de jeunes adolescents. Agressions mortelles, attaques à la hache, au couteau, à la batte de baseball. La violence semble ne plus avoir de limites. Alors les jeunes sont-ils de plus en plus violents? Quelles en sont les causes? Que révèle cette violence de notre société, de la relation à l'autre? Quel rôle jouent les écrans, les réseaux sociaux dans ce phénomène? Y a-t-il une crise de l'autorité? Quelle réponse apporter? L'éducation est-elle devenue le défi à relever de notre société? Eh bien, on en parle tout de suite dans Je pense, donc j'agis, Melchior.
Oui, avec nos invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h.
Avec le père Jean-Marie Petitclerc. Bonjour, père.
Bonjour.
Vous êtes prêtre salésien de Don Bosco, vous êtes polytechnicien, éducateur spécialisé, expert des questions d'éducation dans les zones sensibles. Vous avez notamment fondé à Argenteuil, il y a 40 ans, l'association Le Val d'Oco qui, depuis, a essaimé dans d'autres villes et qui réalise des actions de prévention auprès des enfants et des adolescents. Et vous venez de rééditer, de réactualiser le livre « Spiritualité de l'éducation ». C'est aux éditions des Clés de Brouwer. Il était temps de le réactualiser. Les choses ont changé?
Ah ben oui, les choses bien sûr évoluent, mais les fondamentaux demeurent. Et combien j'aime dire que éduquer, cela suppose avoir foi en l'éducabilité du jeune, quel que puisse être son comportement de l'aujourd'hui, être porteur d'espérance, car on éduque aujourd'hui pour demain, et être capable de nouer une relation éducative que je qualifie de relation d'alliance. Et il me semble important, en ces temps où nous sommes confrontés à cette vague de violence, de rappeler que la meilleure prévention de la violence réside dans l'éducation.
Avec nous également Philippe Paré, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon. Vous venez de publier « Dans le monde d'après, quelle école catholique ?» C'est aux éditions Nepsis Paré. Un mot, dans le diocèse de Lyon, dans l'enseignement catholique, il y a combien d'établissements, combien d'élèves pour qu'on ait une petite idée?
Alors dans le diocèse de Lyon, il y a 300 établissements et 91 000 élèves.
Et 91 000 élèves, 300 établissements, voilà. Ça fait du monde. Vous publiez dans le monde d'après quelle école catholique. Voilà, quel est le message de cet ouvrage?
Le message, dans un premier temps, c'est la constatation des grands bouleversements dans tous les champs. Le monde change au niveau économique, sociologique, sociétal, anthropologique, environnemental. Les bouleversements sont inouïs. Et à partir de là, cela provoque une vraie rupture. Dans ce contexte-là, en fait, le livre pose la question, au fond, quelle posture d'une école catholique dans ce monde qui est complètement bouleversé? Est-ce que cela change la donne? Faut-il un repli identitaire ou au contraire augmenter le dialogue? Et puis, comment effectivement éduquer dans ce monde en mouvement? C'est la question.
C'est un peu la question de ce matin. On le disait en introduction, la violence semble ne plus avoir de limites et touche des adolescents de plus en plus jeunes. Une première question, est-ce que cette violence dans chacune de vos réalités, vous la constatez? Père Jean-Marie Petitclerc, les jeunes sont-ils plus violents qu'avant?
Ce qu'on constate, c'est effectivement un rajeunissement. On l'avait vu pendant les émeutes du début de l'été. Cette violence donc qui touche beaucoup donc l'âge du collège. Ce qui me semble important aussi, c'est cette prolifération d'armes blanches, c'est-à-dire que un coup de poing armé d'un couteau devient un coup de poing mortel. Et des bagarres qui ont toujours eu lieu, mais qui se faisaient à main nue, prennent effectivement une proportion gravissime lorsque les jeunes sont armés de couteaux. Moi, ce qui me paraît très important, c'est quand on dit ce qu'il n'y a pas de limite, c'est effectivement comment a-t-on éduqué ces jeunes à la capacité à maîtriser leur agressivité. Moi, il me semble que ce à quoi on assiste, c'est une absence totale de maîtrise de ces jeunes adolescents qui, une fois emportés dans la logique du conflit, emportés par l'agressivité qu'ils ressentent, eh bien, sont capables de porter des coups mortels. Et puis, ce qui a changé aussi, j'ai assisté à bon nombre de bagarres, de bandes de jeunes au début des années 80, mais alors lorsque la victime était à terre, ben on avait gagné. Je veux dire, il était inutile d'en rajouter. Aujourd'hui, donc, ces lynchages de victimes qui sont dans l'incapacité de se défendre, là on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucun code d'honneur tel qu'il pouvait quand même exister au temps des grands caïds des bandes de jeunes des années 70.
Il n'y a plus de limite à la violence. Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez aussi au sein de vos établissements?
Alors, on constate moins de déferlements de violences telles qu'ils sont décrits dans les médias. Mais il y a plusieurs types de violences. Il y a la violence effectivement exercée contre quelqu'un d'autre. Et puis, il y a aussi la violence exercée contre soi-même. Scarification, suicide, etc. Ou violence psychique. En tout cas, ce que nous observons, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le père Jean-Marie Petitclerc, c'est aujourd'hui une montée aux extrêmes plus rapide et plus systématique. Il y a moins d'effets contenants, effectivement, et dès qu'il y a conflit, eh bien, il y a cette montée en puissance vers le déferlement. C'est vrai pour les jeunes, mais je serais tenté de dire aussi, c'est vrai pour les adultes. On l'observe dans la société, vous avez un petit accrochage, par exemple. Il y a quelques années, on rédigeait un constat à l'amiable. Aujourd'hui, très rapidement, injures, menaces, éventuellement coups de poing, intervention des forces de l'ordre. Donc, on est dans un contexte, en fait, me semble-t-il, de société où les effets sont moins contenants, on n'a plus d'immunité émotionnelle et à partir de là, on se livre sans frein à cette montée aux extrêmes.
Est-ce que cette violence, comme le disait le père Jean-Marie Petitclerc, intervient de plus en plus jeune? Est-ce que, voilà, dans vos établissements, ça arrive peut-être dès le primaire, début de collège?
Ce qu'on observe, et c'est ce qu'on appelle, nous, les nouveaux comportements des enfants, c'est-à-dire que ça peut intervenir dès la maternelle. Vous avez dès la maternelle, vous avez des enfants qui sont en capacité, par exemple, de piquer de grosses colères, de donner des coups de pied à des maîtresses, de maltraiter des petits camarades. Donc, effectivement, on a un contexte de société qui génère cela dès la plus tendre enfance.
Alors... Oui, Père Jean-Marie Petitclerc, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, j'ajouterais que la violence est naturelle. C'est la manière naturelle de régler un conflit. A en conflit avec B, vous supprimez B, le conflit est réglé. Ce qui n'est pas naturel, c'est la capacité de régler le conflit sans recourir à la violence. Vous savez, j'entends des parents aujourd'hui, des instituteurs me dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Les enfants deviennent de plus en plus violents dès l'âge de la maternelle. J'aime répondre, le bébé du 21e siècle n'est pas plus violent que le bébé du 20e. Il n'a tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Et le message de Jean Bosco, c'est de dire que ce problème de la violence des enfants, c'est d'abord un problème d'adulte. C'est-à-dire qui va effectivement éduquer l'enfant à gérer sa frustration? Moi, il me semble qu'on a un véritable déficit dans certaines familles, et puis parfois dans certaines idéologies éducatives, où on se dit, voilà, il faut éviter toute frustration à l'enfant. Non, il faut l'éduquer. Bien sûr, le vivre ensemble va générer, ici ou là, des frustrations par rapport à son désir d'entrer en relation, passion, par rapport à son désir que les choses se passent comme il le souhaite. Mais bon, j'aime dire qu'il n'y a rien de plus violent qu'un bébé. La moindre frustration, il réagit. Et c'est ensuite tout le processus éducatif d'apprendre à l'enfant. Et d'apprendre à l'enfant. Moi, je vois combien je vois de faits de violence au Val d'Oco qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'ado de gérer la frustration liée au non ou à l'interdit d'adulte. Mais gérer sa frustration, c'est pas inné, ça s'apprend. Je vois des tas de faits de violence au Val d'Oco qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'ado de maîtriser ses pulsions agressives. Mais maîtriser son agressivité, là encore, c'est pas inné, ça s'apprend. Et je vois des ados qui sont dans l'incapacité, eh bien, de disposer de tous ces outils que les hommes ont inventés depuis des siècles, la médiation, la conciliation, le recours à l'autorité, qui vont permettre de gérer le conflit sans recourir à la violence. Voilà pourquoi, me semble dire, on va dire, la violence surgit plus en plus tôt. En fait, elle surgit dès la naissance. Et la question, c'est comment on a un déficit aujourd'hui de régulation de cette violence chez l'enfant qui grandit. Et là, la véritable question qui se pose, à mes yeux, c'est bien ce défi éducatif.
Donc c'est le défi éducatif, mais comment est-ce qu'on explique ce phénomène de violence? Vous parlez de cadre, de limites. Il est là le sujet, Père Jean-Marie Petitclerc?
Ah oui, la question, c'est qui doit transmettre les limites? C'est bien l'adulte. C'est pas spontanément que l'enfant... Donc c'est le rôle de l'adulte, de l'autorité de l'adulte, effectivement, de poser le cadre, de transmettre ses limites. Or on voit dans le comportement de certains de ces jeunes adolescents qu'il n'y a absolument pas d'intégration de ces limites. Et comme le disait donc Monsieur Paré, eh bien le petit conflit va dégénérer en violence. Et c'est là où j'aime dire l'intervention de l'adulte un peu comme médiateur. C'est la logique du conflit duel est potentiellement violente, hein. Elle devient ou toi ou moi, et comme chacun choisit moi, eh ben c'est la violence au bout. Comment effectivement apprendre à gérer le conflit avec l'intervention d'un tiers qui va permettre de trouver une solution sans recourir à cette violence? Combien j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers sur ces questions de médiation, et combien je m'étonne aujourd'hui de voir que la réponse est simplement en termes de répression. Ceci ne va pas constituer une véritable voie préventive, hein. D'autant que, vous savez, l'adolescent, dans ce sentiment de toute puissance qu'il exerce dans son ultra-violence, est intimement convaincu qu'il ne se fera pas prendre. Donc, on peut rajouter des menaces de sanctions. Dans la psychologie qui est sienne, il est plutôt de la toute puissance. L'important, c'est comment l'aider à gérer ses conflits sans recourir à cette violence ultime.
Philippe Paré, vous la constatez aussi, cette violence dans vos établissements scolaires. Quelles en sont les causes, selon vous? C'est déficit éducatif au sein des familles, peut-être aussi dans les enseignants. Comment vous voyez ça?
Moi, je crois qu'il est très difficile d'éduquer dans notre société. Pourquoi? Parce que il y a une véritable rupture générationnelle. Inédite, me semble-t-il, complètement inédite. Et les adultes, en fait, sont discrédités par la jeunesse. Il y a une vraie crise de la transmission. C'est-à-dire, là, ce que disait le père Jean-Marie Petitclerc, aujourd'hui, il est difficile de contraindre. La coercition dans l'éducation a été contestée. Le passé est contesté. La culture française, par exemple, d'origine chrétienne, est contestée. Autrement dit, on a tout un passé qui est contesté. Et face à cela, vous avez un avenir qui est complètement incertain, voire dystopique, ce qui fait que vous avez un vide sidéral.
Il n'y a pas de repère.
Et il n'y a pas de repère. Il y a une pluralité incroyable, ce qui fait que les adultes se cherchent. Et à partir de là, dans ce monde où les adultes se cherchent, comment voulez-vous éduquer? C'est hyper compliqué. Et puis, crise de la transmission, les jeunes écoutent moins les adultes qui sont discrédités. Et en fait, comment va se faire l'éducation? Elle va se faire entre pairs, PARS, sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que leurs propres repères, ils se les construisent eux-mêmes. Et ce sont des repères qui ne sont pas fiables, qui peuvent changer en permanence dans ce monde extrêmement mouvant et puis éphémère. Et à partir de là, en fait, la porte est ouverte à tous les excès.
Jean-Marie Petitclerc, vous dites que, dans votre livre d'ailleurs, je crois, pas de crise de l'autorité, mais crise de la crédibilité des porteurs d'autorité. Il est là le sujet aussi?
Ben, tout à fait. Moi, je pense que l'autorité, c'est différent du pouvoir. Le pouvoir, je le reçois de l'institution. L'autorité, elle m'est conférée par ceux auprès de qui je l'exerce. Deux enseignantes dans un collège ont même pouvoir, même délégation du chef d'établissement pour assurer la discipline du groupe classe. Ils n'ont pas la même autorité. On peut avoir du pouvoir, on n'a pas l'autorité. On fait pas autorité. Et dans cette crise qu'évoquait donc Monsieur Paré, avec cette crise de confiance des institutions, une position de pouvoir ne confère plus de manière systématique une position d'autorité. Et je pense que si hier, l'autorité pouvait reposer sur le statut de la personne qui l'exerce, on s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes sont de moins en moins impressionnés par le statut de l'adulte qu'ils ont en face d'eux. On se souvient de l'apostrophe du président de la République par un collégien de troisième, alors Manu, comment ça va, s'adressant au président de la République comme il serait adressé aux voisins du quartier. Et donc l'autorité aujourd'hui va beaucoup plus se fonder sur la crédibilité de celui qui en est le porteur. Et il me semble qu'on a effectivement un discrédit de la parole du politique, tous ces politiques qui, à chaque élection, font des tas de promesses, comme s'ils étaient capables de résoudre tous les problèmes, voter pour moi, et le problème de la dette est réglé, le problème de l'immigration est réglé, le problème de la délinquance est réglé. Ils savent bien que c'est pas possible, et tout le monde le sait. Et effectivement, aujourd'hui, donc les jeunes se détournent, alors on s'étonne, se détournent effectivement du vote, perte de crédibilité de l'Église, on sait combien toute cette crise des abus sexuels fait que bon nombre de nos évêques aujourd'hui se taisent, ils se disent mais voilà, je me sens plus crédible pour apporter une parole. Et combien vouloir restaurer l'autorité, c'est d'abord travailler à la restauration de la crédibilité de l'adulte. Comme le disait Monsieur Paré, là il y a un peu une rupture. Mais je pense que dire que les jeunes continuent d'être capables de faire confiance à un adulte qui juge crédible. Et cette crédibilité se fonde sur la cohérence entre le dire et le faire. Je crois que le fait ce que je dis mais pas ce que je fais, ça ne marche plus en éducation. Ça a eu marché au temps de Fernand Reynaud, mais plus aujourd'hui. Et combien, effectivement, travailler, nous adultes, à cette cohérence entre ce que nous disons aux jeunes et ce que nous pratiquons, et à mon avis, une urgence pour relever ce défi de l'autorité.
Il est 9h20, dans Je pense, donc j'agis. Vous l'entendez ce matin, on parle de la violence des jeunes. Vous avez la parole pour témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense, donc j'agis. Geneviève nous a rejoint. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour Melchior.
On vous écoute.
Un grand, grand merci bonjour. À vous pour cette émission qui me tient si profondément à cœur. Un grand merci au père Jean-Marie Petitclerc, dont j'apprécie tellement les paroles et la philosophie. Enfin voilà, j'ai travaillé toute ma vie auprès des jeunes, surtout comme psychologue dans l'éducation nationale. Et voilà, je vais essayer d'être brève, j'aurais tellement de choses à dire. Personne ne vient au monde violent. Si les jeunes aujourd'hui, mais je vais redire en beaucoup moins bien ce que j'entends à l'antenne depuis tout à l'heure, si les jeunes en sont là, c'est que d'une part, effectivement, je pense qu'il y a un déficit au niveau de la famille, un déficit d'amour vrai et non pas d'amour bisounours. L'éducation positive, elle est formidable. Mais il ne faut pas oublier que dans l'éducation positive, le non existe et que le jeune a besoin de limites, mais toujours dans l'amour, bien sûr, sans la violence. Le jeune a besoin d'autorité, pas d'autoritarisme. Plus l'autoritarisme de nos pères, paterfamilias, d'autrefois, mais la juste autorité. J'ose dire sur RCF, l'autorité que le Christ nous a enseignée, c'est-à-dire une autorité pleine d'amour, de bienveillance, de tendresse et de fermeté, d'exigence. Alors, les causes en sont multifactorielles. Déficit de la famille, oui. À l'école aussi. Il y aurait tellement... J'ai écrit un livre il y a 10 ans sur l'école.
Et ce serait long, Geneviève, je pense, de tout citer. Mais voilà, ce qu'on a entendu de votre témoignage, c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je me permets de vous couper parce qu'on a énormément de réactions ce matin. J'aimerais vraiment qu'on puisse, Pauline, on va voir, mais prendre le temps d'entendre tout le monde. Peut-être Philippe Paré sur ce témoignage de Geneviève, sur l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est profondément vrai. Et il est évident que tout repose sur cette grande qualité d'amour et puis de relation. Je pense que ce qui est décisif, et c'est ce qui fonde la mission éducative de l'école catholique, c'est de reconnaître la dignité de la personne humaine. Ça, c'est décisif. C'est-à-dire que l'enfant doit, au sein de sa scolarité, faire l'expérience qu'il est vraiment reconnu dans sa dignité, dans sa singularité. Et qui dit singularité, dignité, dit aussi évidemment cadrage. Il faut du cadrage, ça c'est évident. Il faut un contexte contenant, mais un contexte aussi porteur de sens. Et ça invite véritablement tous les adultes, que ce soit des parents, des enseignants, des personnels éducatifs, etc., à vivre une expérience d'alignement. Et les jeunes aujourd'hui mesurent en 10 secondes à peine l'alignement de la personne humaine. C'est vraiment la sincérité, cette espèce de vérité de la personne qui fait qu'à partir de là, on entre dans des relations qui sont vraies. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est que dans la mesure où la société n'a pas de solution, la famille est en difficulté, les gens sont en difficulté, on n'a pas non plus, comment dirais-je, à les condamner, mais il y a une attente immense à l'égard de l'école, c'est-à-dire que c'est presque utopique, on souhaiterait que l'école puisse résoudre toutes les situations. Mmh. C'est trop demandé à l'école.
Père Jean-Marie Petitclerc, vous vous dites, pas d'amour, il n'y a pas d'amour sans loi et pas de loi sans amour.
Oui, tout à fait. Je crois que ce que le Christ nous apprend, c'est de conjuguer amour et loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et je rebondis sur les paroles de notre auditrice. L'art d'exercer une fonction d'autorité, c'est l'art de faire passer le message. Je te dis non parce que je t'aime. Je n'aurais rien à cirer de toi. Je n'aurais rien à cirer de ton avenir. Je te laisserais faire n'importe quoi. C'est parce que tu as du prix à mes yeux. C'est parce que ton avenir m'intéresse que je pose telle limite et que je pose tel interdit. Puis j'ajouterais quelque chose un peu sur l'école, parce qu'il me semble que l'école doit être aussi ce lieu d'apprentissage du savoir-vivre ensemble. Combien effectivement, j'entends des fois des enseignants dire « Ah bah oui, mais nous on est là pour transmettre le savoir ». Je leur dis « Écoutez, votre institution, c'est elle qui choisit de regrouper des centaines d'adolescents à l'âge de la puberté sur un espace étroit. Après, il faut être un peu conséquent. Combien on voit aujourd'hui que les tensions vont naître sur la cour de récréation, lorsque chaque adolescent va pouvoir effectivement s'illustrer auprès de ses camarades par ses conquêtes, et puis va mettre en difficulté le camarade qui a beaucoup plus de difficultés relationnelles que celui qui est populaire. Et ça va générer des frustrations. Et combien on voit aujourd'hui tous ces incidents qui naissent sur les cours de récréation et qui se transforment en conflits juste à la sortie du collège, où se font les règlements de compte. Donc combien là, il me paraît important de se dire, cette présence, et nous salésiens, on essaie d'accorder beaucoup d'importance à la présence des adultes sur la cour de récréation. Combien effectivement, je vois aujourd'hui des adultes qui font cours, et puis la récréation, on va en salle de prof. Et puis on laisse tous ces ados ensemble à l'heure où se construisent les amitiés, les inimitiés, etc. Et sans aucune présence. Et après on s'étonne. On s'étonne qu'au sortir du collège, c'est quand même pas anodin que tous ces incidents aient lieu à la sortie du collège. C'est que ça s'est joué dans le collège et que on le règle compte à la sortie. Donc c'est un peu facile des fois pour l'école de se dédouaner de cette responsabilité. Et c'est une magnifique responsabilité. Apprendre aux jeunes à vivre ensemble. Je crois que l'école est faite aussi pour cela. L'école est née avec la démocratie en Grèce, apprendre effectivement à ces jeunes à devenir citoyens.
Les réseaux sociaux, Père Jean-Marie Petitclerc, aussi, c'est un sujet, Philippe Paré en parlait tout à l'heure, mais voilà, ça contribue à cet état de fait.
Bien sûr, hein, il faut parler effectivement des écrans et puis toutes ces images parfois d'ultra-violence dans ces clips que certains adolescents affectionnent. Mais alors, et ça a une incidence bien sûr forte sur les comportements. Comment l'expliquer ? Je dirais principalement que dans ce virtuel du réseau, on a une violence sans souffrance. C'est-à-dire qu'on ne voit ni la souffrance de la victime, ni la souffrance de l'entourage de la victime. Et donc, comme j'aime à le dire, la difficulté des écrans, c'est qu'ils sont destructeurs d'empathie. Et combien je vois au niveau de ces adolescents que j'observe, parfois cette déconnexion entre leur violence et aucune perception de la souffrance de la victime. Car ce qui va faire un peu obstacle au déploiement de la violence, c'est bien la perception de la souffrance de la victime. Lorsque cette perception n'existe plus, et c'est ce que je trouve un peu dramatique parfois avec cet usage des écrans, c'est, on le voit, vous savez, à certains collèges, certaines sorties où deux gamins se battent, et bien un autre qui filme. Lui, il est soucieux de fabriquer une belle image qu'il pourra ensuite diffuser sur TikTok ou sur Instagram, et sans avoir l'idée de se dire, mais il faut peut-être que je prête secours quand même à celui qui prend des coups. Non, ceci est complètement absent. Il est absorbé par la construction de l'image. Hein. Donc, je crois effectivement que l'éducation à l'empathie est vraiment un pilier.
Il paraît
de cette prévention de la violence. Mais alors, on peut pas résoudre le problème à la manière éducation nationale. On détecte le problème empathie. Alors, on va faire des cours d'empathie menés par des professeurs formés à l'empathie. Non, non. C'est vraiment l'affaire de toute la communauté éducative. Hein, et bien, de se dire comment éduquer à l'empathie, comment aider ces enfants, ces adolescents à être capables de se mettre à la place de l'autre, c'est ça. Hein, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. C'est la règle d'or, nous dit-on, de la Bible de Jérusalem, de la morale évangélique. Et il me semble que c'est cette règle. Hein, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal. Il s'agit de dire ne fais pas à l'autre ce qu'il n'a pas envie qu'il te fasse. Moi, j'aime dire aux ados parfois que je vois pianoter sur leur clavier, avant de toucher clic envoi, tu te mets dans la peau de celui qui va recevoir le message.
On vous fera réagir.
Si t'es capable de faire ça, les réseaux, c'est un formidable outil de communication, c'est un formidable outil de relation. Si t'es pas capable de faire ça, eh bien, ça peut devenir un terrible outil de harcèlement. Et c'est pas le réseau en lui-même, c'est l'utilisation du réseau qui peut favoriser la communication ou qui peut être un terrible outil de harcèlement.
On va continuer d'en parler dans un instant dans Je pense donc j'agis. Philippe Arré, on vous fera réagir. Promis, après la petite pause qu'on doit marquer, on accueillera Jacqueline également au 04 72 38 20 23. Beaucoup de messages à vous lire dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis et par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Vous continuez de témoigner et je vous dis à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Young boy with his sister's doll, dressed in a purple soul, wobble the knees and heels, tiara cracks when I fall. She holds me and dries my tears, says hold your chin up high. Can even say what's right. Shiny shoes and black suits, they just won't suit me. Please don't stare, no one tells me what to wear. My tights are not for wrestling or even fencing, and I'll be like him if no one tells me how to sing. Sequin blouse, Margot goes down with the blinds. Chanel fills the house, powder for my worry lines. She says, hold your head high, so I am, and I feel light. Who can even say what's right? Shiny shoes and black suits, they just won't suit me. Please don't stare, no one tells me what to wear. My tights are not for wrestling or even fencing, and I'll be lucky if no one tells me how to sing. That your granddad used, they just won't suit me, they're forgiven.
Don't let it suit you.
This ring on my finger, it just won't suit me, but I'll wear it.
Don't let it suit you.
Pretending I'm ashamed, it just won't suit me, so don't bother.
Don't let it suit you.
You know, shame will pull you down and break your crown. You know it's true.
Don't let it suit you.
We'll be right back.
Sweet Me, c'était Tiny Shuttle pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec nous deux invités jusqu'à 10h, on parle de la violence des jeunes. Père Jean-Marie Petitclerc, vous nous accompagnez. Vous êtes prêtre salésien de Don Bosco, polytechnicien, éducateur, spécialisé également, expert des questions d'éducation dans les zones sensibles. Avec nous également Philippe Paré, vous êtes directeur de l'enseignement catholique dans le diocèse de Lyon. Dans un instant, on accueillera Jacqueline et Marie-Claude qui vont témoigner au 04 72 38 20 23. Philippe Paré, on vous a pas entendu sur la place des réseaux sociaux à l'école.
C'est une place considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des jeunes, et souvent dès le primaire, en fait, vont consacrer énormément de temps sur les réseaux sociaux. Quelquefois, c'est une deuxième journée qui commence de 18h à 23h. Autrement dit, le temps hebdomadaire sur les réseaux sociaux est souvent bien supérieur à celui de l'école. Donc, ce qui veut dire que le temps de la déconstruction et de la fragmentation est beaucoup plus important que le temps de la construction et puis du vivre ensemble. Ça, c'est un premier aspect qu'il faut vraiment aujourd'hui prendre en compte. Et le deuxième aspect, c'est la façon de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui va affirmer une idée et vous allez observer que les commentaires qui vont surgir de façon extrêmement spontanée, ce sont souvent et quasiment exclusivement des commentaires d'opposition, d'indignation et de confrontation. Ce qui fait que le numérique génère en fait une culture de la pensée divergente et d'opposition, alors qu'avant les réseaux sociaux, en fait, le dialogue, le débat était davantage promoteur d'une pensée convergente. Donc, ce qui fait que ça renvoie les personnes à leur propre subjectivité, qui se confrontent à d'autres, et ça peut générer effectivement du conflit et puis de la violence. Donc, il y a un vrai travail éducatif à faire sur la question du débat, la question de l'échange, la question des réseaux sociaux. Et je suis d'accord avec ce que disait le père Jean-Marie Petitclerc aujourd'hui. Le défi pour l'école est prioritairement un défi éducatif. C'est-à-dire que la priorité des priorités, c'est l'éducation, et en second vient l'enseignement.
Et alors, justement, pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Marie Petitclerc, sur cette question, finalement, dans les établissements scolaires, aussi de cette distance entre les jeunes et les enseignants, vous la constatez, voilà, comment vous l'expliquez, et est-ce que dans les solutions, est-ce que ça doit reposer sur des jeunes et des profs qui soient plus ensemble, que ce soit dans la cour de récré ou...
C'est évident qu'aujourd'hui, il faut une attention particulière à la qualité de relation. Ça, c'est évident. Je pense que c'est ultra prioritaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les jeunes vont le sentir en une seconde. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, alors c'est compliqué hein, quand il y a une trentaine d'élèves dans les classes, etc., etc., mais ont un besoin fou d'être pris en compte personnellement. Et ça, ils le recherchent.
Plus d'attention que...
Beaucoup plus d'attention qu'avant, effectivement, parce qu'il y a un besoin de sens, un besoin de contribution qui est inouï.
Donc ça, c'est important, une auditrice.
Oui, Jacqueline, tout à fait. Bonjour Jacqueline.
Bonjour messieurs.
Bonjour Jacqueline.
Voilà, moi j'ai gardé des enfants, mais bien avant les réseaux sociaux.
Oui.
Et devant les maîtresses, devant les parents d'élèves qui pouvaient porter plainte contre moi, devant les petits copains qui pouvaient raconter aux parents et aux maîtresses ce que je leur faisais. Les enfants, qu'est-ce que vous préférez? Moi, mes fessées, mes jeunes à la pâtisserie. Dans la ville, on a une pâtisserie qui fait des grosses big gâteaux. Ou mon frère, sans ses fessées, sans ses jeunes à la pâtisserie. Ouais. Toi et tes fessées. Je vous en donne trop, pas assez, ou quand il faut. L'un, c'était tu nous en donnes quand il faut. Il a fait polytechnique. L'autre, tu nous en donnes pas assez. Et quand j'en avais fâché un, quand j'avais donné la fessée à l'un, j'avais toujours l'autre dans les arbres. Je suis sage, Marie-Hélène, je suis sage. Tu ne diras pas papa, tu ne diras pas maman. C'était amusant de les voir.
Donc voilà, on entend cette forme d'autorité. Jacqueline, merci beaucoup pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Peut-être qu'on peut continuer avec Marie-Claude. Marie-Claude, vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Bonjour. Marie-Claude, est-ce que vous êtes là? Eh ben Marie-Claude n'est plus là. Bah Pauline, je suis désolée. On va pouvoir continuer
avec,
exactement avec nos deux invités, nos deux Philippe invités, Paré et Jean-Marie Petitclerc.
On parlait d'autorité et moi j'aimerais revenir un instant justement sur Père Jean-Marie Petitclerc, sur l'action et la pédagogie de Don Bosco. Peut-être rappelez-nous en quelques mots quelle intuition il a eue et peut-être en quoi elle est aujourd'hui d'actualité.
Oui, Don Bosco a connu lui aussi une époque de mutation sociétale, hein, puisqu'on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine industrielle. Et comme le disait Monsieur Paré, dans toutes ces périodes de mutation, l'éducation devient une tâche plus difficile parce qu'il n'y a plus de consensus sociétal autour d'un ordonnancement des valeurs. Et la grande intuition de Don Bosco, c'était que lorsque la confiance s'estompe dans les institutions, alors en son temps c'était les institutions liées à la monarchie qui étaient en voie d'effondrement, il disait que la capacité à transmettre allait beaucoup plus être liée à la qualité de la relation adulte-jeune, plutôt qu'à la qualité organisationnelle du système institutionnel. C'est-à-dire qu'il nous lègue une pédagogie fondée sur cette qualité de la relation adulte-jeune. Et Don Bosco est ce pédagogue qui, après la grande rationalisation du siècle des Lumières, a réhabilité l'affectif au cœur de cette relation éducative, disant que de toute façon, il y a de l'affectif, qu'on le veuille ou non. C'est une composante de la relation humaine. Et donc, pour lui, mieux vaut le reconnaître pour être capable de le gérer, plutôt que vouloir le nier. Je suis de ceux qui pensent que si parfois notre école traverse de telles difficultés dans la gestion de groupes d'adolescents ou comportements provocateurs, c'est qu'un certain nombre d'enseignants continuent d'être formés à la négation de la dimension affective de la relation pédagogique. Comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était complètement identique à la relation entre un prof homme et une adolescente fille. Ou comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était complètement identique à la relation entre une prof femme et un adolescent garçon. Non. Cette dimension de l'affectivité, et lorsque j'utilise ce terme d'affectivité, je pense tout autant à des sentiments affectueux qu'à des sentiments agressifs, hein, c'est un vocable neutre, cette dimension de l'affectivité doit être reconnue. Et donc, Jean Bosco, alors, disait, et c'est ainsi qu'on résume sa pédagogie. D'abord, sans confiance, pas d'éducation. Si je peux fonder le pouvoir sur la menace, je ne peux fonder l'autorité que sur la confiance. C'est toute la différence entre se soumettre et obéir. On se soumet à un pouvoir alors qu'on obéit à une autorité. C'est écouter une voix qui fait poids. Et il disait, sans affection, c'est une mauvaise traduction. Il disait, sans amore vole de ça. Nos amis italiens ont l'habitude de construire des mots en les juxtaposant, où à la fois il y a le terme d'amore qui relève de l'affectif et le terme de vole de ça qui relève de l'éclairage par la raison. C'est-à-dire que c'est une affection guidée par une intentionnalité éducative. Et il disait, sans cet amore vole de ça, la confiance n'est pas possible. Il aimait dire, l'important n'est pas que le jeune soit aimé, mais qu'il se sache aimé. Vous savez, je rencontre des enseignants qui me disent, mais on n'est pas là pour aimer les enfants. Je dis, non, non. Vous êtes là pour les faire grandir. Mais pour qu'ils puissent grandir, il faut qu'ils se sentent aimés. Voilà. Ça, c'est le grand message de Don Bosco.
Philippe Paré, les jeunes doivent se sentir aimés?
La réponse est oui, effectivement. La réponse est oui. Mais la tâche éducative est difficile. Hein. Nous ne sommes pas là, effectivement, pour condamner les enseignants. La tâche est extrêmement difficile parce que aujourd'hui, une classe, en fait, c'est 30 singularités. Ce n'est plus un groupe. Donc, ça demande à l'enseignant effectivement une extrême souplesse et flexibilité, tout en recherchant quand même un cadrage pour le vivre ensemble. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis ça nécessite énormément d'énergie, de formation, d'engagement, de confrontation. Donc, la tâche est difficile. Elle est très belle, elle est enthousiasmante, mais elle est difficile. Et moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'enseignants vraiment sont à la recherche de cette qualité de relation. C'est sans doute plus facile pour des jeunes enseignants issus des générations Y, etc., que pour des enseignants qui ont vécu de longues années d'enseignement dans un tout autre contexte et qui doivent, du jour au lendemain, remettre en question, effectivement, des habitudes, des dizaines d'années d'habitudes d'enseignement dans un contexte plus partagé. Donc, je souscris pleinement à ce que dit Jean-Marie Petitclerc. La confiance est essentielle et je pense que il faut vraiment faire en sorte que le jeune soit contributeur dans un établissement scolaire. Ça, c'est vraiment ce que nous essayons de rechercher, c'est-à-dire leur demander en fait d'être acteurs pour transformer le monde dans lequel ils sont. Ils ont ce besoin-là. Et la question qui se pose, c'est comment je puis transformer effectivement cette micro-société qui a une classe, un établissement scolaire, parce qu'ils ont des idées et ils sont bourrés d'énergie, ce qui provoque une transformation personnelle. comment je transforme l'environnement tout en me transformant moi-même. Et à partir de là, je peux vous dire que ça change tout le climat relationnel au sein d'un établissement scolaire.
Est-ce qu'il faut embarquer les parents aussi? Là, on parle de la prise en compte du jeune, mais on l'a compris, ce phénomène de violence et autres soucis, ça vient aussi parfois de l'environnement ou des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Comment, est-ce que c'est un sujet, Philippe Paré,
que
vous avez au sein de vos établissements?
Absolument, c'est un vrai sujet. Je le caricature un peu, mais dans le monde d'avant, effectivement, de façon naturelle, l'école offrait un continuum éducatif de ce qui se vivait au sein de la famille. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout, parce que la famille est fracturée. Les repères ne sont plus partagés, donc il n'y a plus cette espèce d'évidence de continuum éducatif entre la famille et l'école. Alors, il est évident que au sein de l'enseignement catholique, vous savez que les parents d'élèves, par le biais des appels, font partie de la communauté éducative. Donc, ils ne sont pas à l'extérieur, et il faut absolument aujourd'hui coopérer, réfléchir ensemble, et il est nécessaire pour les jeunes d'observer des adultes qui appartiennent à des instances différentes, à des courants différents, à des pensées différentes, se mobiliser ensemble pour être au service de la construction d'un nouveau monde et d'un nouveau commun.
Jean-Marie Petitclerc, c'est important cette collaboration avec la famille aussi.
Tout à fait, je partage tout à fait. Hein, comment construire cette alliance éducative entre tous les partenaires qui accompagnent l'enfant sur son itinéraire de croissance. Hein, j'ai pu souvent effectuer une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent, et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent sur cet itinéraire de croissance. Hein, et combien je rencontre parfois des adolescents maghrébins me dire mais Jean-Marie, ce qu'on me dit en famille, c'est l'inverse de ce qu'on me dit à l'école. Alors qui croire? Et combien il est important hein, de leur dire, bah oui, la transmission s'effectue pas de la même manière. Tes parents transmettent les valeurs qui font vivre. L'enseignant, lui, comme le disait M. Paré, est obligé d'apprendre à vivre ensemble des ados qui ne partagent pas forcément toutes les mêmes valeurs familiales. Mais combien il est important qu'il y ait une cohérence entre tous ces adultes. Et je crois qu'un des grands défis de l'école aujourd'hui, c'est effectivement de renforcer cette alliance éducative avec les parents. Vous savez, je crois que le pire qui peut arriver pour un ado, c'est de le mettre dans une situation de conflit de loyauté. Ou pour être aimé de quelqu'un qu'il estime, il doit faire des choses à l'encontre d'une autre personne qu'il estime, je veux dire. Et combien ceci nous oblige, nous les adultes, à veiller à cette cohérence.
Marie-Claude, on vous a retrouvé. Bonjour.
Oui, bonjour Marie-Claude. Bonjour, merci beaucoup. Voilà. Écoutez, moi j'avais envie d'intervenir et j'ai envie d'intervenir assez souvent dans le sens de ce que je vais dire maintenant.
Oui.
Il me semble que par bienveillance vis-à-vis des communautés musulmanes de notre pays, et la plupart qui sont très bien intégrées, autour de moi j'en ai beaucoup, je sais d'ailleurs aussi de l'accueil des migrants, etc. Mais si vous voulez, par souci d'éviter toute islamophobie, on occulte les raisons culturelles des enfants de ces communautés-là. C'est quoi ces raisons? C'est que les garçons, ils ont des comportements violents et même criminels, on le voit bien maintenant, de défense du soi-disant honneur de leurs sœurs, de leurs copines. C'est des comportements qui sont archaïques. Et je trouve que c'est par souci de ne pas les stigmatiser que l'on n'en parle pas assez. Non pas qu'il faut toujours en parler, c'est pas ça, mais il faut dire. Mais vous êtes à côté de la plaque, les gars, c'est pas ça. C'est d'abord l'amour, d'abord, bon, l'honneur, c'est autre chose. Bien sûr, il faut le respect de ses amis. Enfin, vous avez compris.
Voilà. Marie-Claude, merci beaucoup pour votre témoignage.
Jean-Marie Petitclerc, vous faites un lien parfois entre cet islam rigoriste et la violence chez les jeunes. Est-ce qu'on peut faire le lien?
Oh, il ne faut pas généraliser, mais il y a du vrai. Insister sur l'éducation au respect. Et moi, effectivement, je fais une distinction entre ces deux notions qu'on a parfois tendance à confondre, que sont tolérance et respect. Parce que notre société va prôner la valeur de la tolérance. Mais quand on parle de tolérance, on parle de la tolérance dans quel registre? Est-ce vis-à-vis des personnes? Ça me paraît un peu faible comme mot. Je vais pas dire je tolère mon voisin. C'est vraiment le minimum syndical. Mais très souvent, il y a un discours politico-médiatique où on pose la tolérance au niveau des personnes et on en déduit qu'il faut tolérer tous les comportements et toutes les idées. Non, il y a des comportements qui construisent l'homme, d'autres qui le détruisent, des comportements qui tissent le lien social, d'autres qui le minent. Moi, personnellement, dans l'exercice de mon métier d'éducateur, j'ai toujours efforcé de respecter chaque adolescent que j'avais en face de moi, mais en étant intolérant vis-à-vis de certains comportements. Voilà. On peut pas éduquer dans la tolérance, on éduque dans le respect et ensuite dans les repères. Et là, je crois effectivement qu'il y a un peu une confusion et que tout ce discours autour d'une certaine victimologie, hein, c'est toujours souvent assez négatif, enfin je veux dire, de considérer, éviter ou se positionner comme victime. Non, il s'agit vraiment de restaurer cette valeur du respect, et je crois que c'est une des valeurs fondamentales, apprendre à se respecter, même si on ne partage pas les mêmes idées, même si on n'est pas habité par les mêmes convictions, apprendre à respecter l'autre tout en étant engagé dans un combat contre les idées ou dans le refus net de comportements tels que notre auditrice vient de l'énoncer. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'elle vient de nous dire.
Philippe Paré.
Oh, tout à fait d'accord. Les pensées sont libres, pas les comportements au sein de nos établissements. Et nous sommes très très attentifs à ce qu'on pourrait appeler cette espèce de pression de conformité souterraine qui peut exister dans certains communautaristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour inscrire un élève dans un établissement catholique sous contrat, il y a un dialogue entre la famille et puis le chef d'établissement ou son représentant pour vérifier précisément que la famille, quelle que soit son origine, son extraction, ses convictions, etc., eh bien, elle accepte d'entrer dans un projet qui est celui de l'établissement. Et à partir de là, effectivement, bah, c'est un projet qui vise la promotion de la personne humaine et la promotion de la communauté humaine.
Allez, une autre réaction, celle d'Olivia au 04 72 38 20 23. Bonjour Olivia.
Oui, bonjour Olivia. Merci de me prendre à l'antenne. Voilà, alors moi je ne suis pas de l'éducation nationale, mais j'ai toujours été en entreprise. Et en entreprise, eh bien, on est noté sur des notions quantitatives, mais aussi qualitatives. Et je me disais, pourquoi pas intégrer une note à définir évidemment sur des notions de valeur, de respect, d'écoute, d'entraide, qui suivraient l'étudiant de la 6e à la terminale et qui serait prise en compte pour l'obtention du bac. Voilà. Ça peut peut-être... Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus...
Mais c'est intéressant, Olivia, surtout que ça rejoint ce qu'a annoncé Gabriel Attal, d'ailleurs, à l'école, dans le cas où le comportement des élèves pourrait vraiment pénaliser leur note au brevet, au CAP ou au bac. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Paré, représentant de l'enseignement catholique ce matin?
Alors, c'est toujours intéressant, effectivement, de repérer et de garder trace des comportements positifs de contribution. Ça, c'est important. Et de plus en plus d'établissements élaborent ce qu'on appelle des portfolios, c'est-à-dire que le collégien, le lycéen va avoir une espèce de curriculum vitae d'actions positives qu'il a pu mener. Et c'est intégré dans Parcoursup aujourd'hui. C'est-à-dire, et ça c'est intéressant, et ça rejoint ce que dit notre auditrice, c'est-à-dire que dans le dossier Parcoursup, il y a à la fois... évidemment les incontournables résultats scolaires, mais il y a aussi tout ce qui est contribution, participation à une association, à la vie collective, et l'établissement d'enseignement supérieur peut ainsi repérer les actions positives et les engagements des jeunes. Donc ça, évidemment, je suis tout à fait favorable à cela.
Une autre question, Père Jean-Marie Petitclerc, dans les solutions pour ce défi éducatif de notre société, on parle beaucoup des patronages et du renouveau des patronages. Est-ce que ça fait partie aussi de la solution, c'est complémentaire de l'école et des différentes structures?
Oui, tout à fait. J'aime dire qu'il y a trois lieux d'éducation. Il y a la famille, il y a l'école, et puis après, il y a tout ce temps de loisir. Et d'avoir une présence des adultes durant ces temps de loisir me paraît effectivement important. Comme le soulignait M. Paré, lorsqu'on annualise le temps de vision des écrans aujourd'hui, le temps que passe le jeune sur les écrans est supérieur au temps qu'il passe à l'école. Comment effectivement réinvestir des temps de loisir partagés avec des adultes? Alors, Don Bosco, enfin, je veux dire, a été un peu le champion, enfin, je veux dire, hein, dans cette conception du patronage, hein, disant, ben voilà, il y a ce tiers-lieu éducatif, il y a la famille, il y a l'école, et puis il y a ce tiers-lieu et où effectivement l'adulte qui va être porteur des règles du savoir vivre ensemble n'est pas en même temps celui qui est chargé d'enseigner une discipline avec toutes les contraintes qui sont liées à la capacité qui est sienne de devoir faire passer cet enseignement. Donc c'est une autre forme, mais qui va permettre effectivement aux jeunes, hein, et également, vous savez, je veux dire, c'est un formidable lieu, je dirais, d'apprentissage du rapport à la loi. Pour Don Bosco, le jeu n'était pas un espace récréatif, était vraiment un espace éducatif. Et car le jeu collectif, pour lui, c'est ce qui permet de faire découvrir aux jeunes que la loi est faite pour le plaisir du vivre ensemble. Vous faites une partie de foot, s'il n'y a pas de règle, s'il n'y a pas d'arbitre garant de la règle, ça dégénère en violence au bout de 10 minutes. S'il y a une règle et un arbitre garant de la règle, le plaisir de jouer ensemble peut durer 2 fois 45 minutes. C'est-à-dire que pour Jean Bosco, le jeu était le meilleur outil d'apprentissage du rapport à la loi qui est faite pour le plaisir de vivre ensemble. D'ailleurs, on le voit dans notre société, les quartiers où la loi est le mieux respectée sont les quartiers où il fait bon vivre, les quartiers où la loi est le moins respectée, on parle de quartiers sans droit, faut le dire, sont les quartiers où la souffrance du vivre ensemble est la plus forte. Et donc, cet espace-là, du patronage, va être cet espace où on va pouvoir jouer. Voilà, et découvrir toutes les valeurs du jeu. Jean Bosco aimait dire que dans le jeu, il y a à la fois le rêve, hein, l'imaginaire, il y a le fait de se distribuer des rôles, et puis il y a le fait d'apprendre à respecter la règle et de voir le respect de la règle comme permettant le plaisir du jouer ensemble.
Fille paraît.
Alors, tout à fait d'accord. Et c'est vrai que à Lyon, autour de Lyon, on voit aujourd'hui fleurir des patronages à l'initiative notamment des paroisses. C'est vrai à mes yeux dans le 8e, etc. De plus en plus. Et à chaque fois, il y a une vraie recherche de coopération entre l'école catholique et puis le patronage. Et ça fonctionne.
Donc c'est complémentaire.
Mais c'est éminemment complémentaire. Et c'est la même expérience d'un être avec, d'un vivre avec, qui fait que progressivement les personnes se construisent et puis trouvent une véritable unité.
On va revenir sur un élément qui est important aussi, et RCF, la joie se partage. Donc je vous pose la question, Jean-Marie Petitclerc, vous dites la joie de l'éducateur, elle est indispensable.
Oui, j'aime parodier cette parole de François de Sales, un saint triste est un triste saint, en disant qu'un éducateur triste est un triste éducateur. Et la joie de l'éducateur, c'est vraiment la joie de voir des enfants grandir, hein, la joie de voir des enfants développer des relations d'amitié, la joie de voir des enfants capables de se dépasser eux-mêmes. Et il faut que cette joie des enfants alimente la joie d'éducateur et que la joie d'éducateur alimente la joie de l'enfant. En tout cas, c'était une des consignes, hein, de Don Bosco, hein, c'est de repérer le climat, hein, d'une institution salésienne qu'il avait créée comme devant être un climat où règne cette joie.
Quel rôle doit jouer l'école aujourd'hui, justement, pour limiter cette violence, pour redonner cette confiance?
Moi, je dirais que c'est l'éducation des trois U, c'est-à-dire unique, utile, universel. Le jeune doit se découvrir unique et pas seulement appartenant à un groupe, même éphémère, etc. Il est unique et il doit être aimé de façon unique. Utile, eh bien, il doit être utile à la construction du groupe et de la société. Et là, il trouve un rôle au sein précisément d'une communauté humaine et universelle, eh bien, qu'il puisse s'apercevoir effectivement que ses frères et sœurs, au sens biblique du terme, quelle que soit leur pensée, leur origine, eh bien, participent du même mystère de la personne humaine. C'est vraiment l'école des trois
U. Ce triptyque.
Triptyque, effectivement. Et c'est pas seulement un apprentissage extérieur à soi, il faut que ce soit expérientiel.
Unique, utile, universel, par Jean-Marie Petitclerc, en quelques mots. Le défi pour demain.
Oui, ben, j'irais au niveau de cette école, soit un lieu d'apprentissage. Vous savez, moi j'aime cette devise de Mandela, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Je rencontre des parents qui me disent, mon enfant est un échec scolaire. Je dis, mais c'est pas possible. Pour un échec scolaire, il y a un apprentissage scolaire. Et l'apprentissage s'effectue selon différents rythmes. Et combien effectivement, je crois qu'il nous faut quand même lutter. La plupart des jeunes, et je terminerai là-dessus, les plus violents que j'ai pu rencontrer sont souvent des jeunes qui ont une très faible estime d'eux-mêmes. Mmh. Quand j'arrive dans ma tête à penser que la seule manière de me prouver que j'existe, c'est d'écraser l'autre, c'est que quelque part, je suis un peu la peine pour me faire reconnaître par mes propres talents.
Merci beaucoup, Père Jean-Marie Petitclerc, d'être venu témoigner. Vous êtes prêtre salésien de Don Bosco, expert des questions d'éducation dans les zones sensibles. Je renvoie les auditeurs au livre que vous rééditez, Spiritualité de l'éducation, c'est aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis Philippe Maré, merci beaucoup. Philippe Maré, vous êtes directeur de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon. Vous venez de publier « Dans le monde d'après, quelle école catholique ?» C'est chez Népsis Paré. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Pauline de Torchiac. On aurait pu tenir encore plusieurs heures, ouais, hein, avec le nombre de témoignages qu'on a reçus. Merci beaucoup. On va continuer dans un instant. On en a un peu parlé. On va parler des patronages. À tout de suite.